question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'homme dans la cité. J'aime beaucoup le principe de l'homme dans la cité, mais en fait, je cite le titre de Jacques Brel, une chanson de Jacques Brel, alors que pour le 8e colloque qui va se dérouler au cégep de Sainte-Foy, on devrait faire l'inverse, une cité pour l'homme. Et j'ai avec moi l'un des organisateurs, vous le connaissez, je l'ai invité régulièrement à l'émission et j'espère que ce n'est pas la dernière puisque c'est toujours intéressant de l'entendre. Louis-André Richard, bonjour.
Bonjour.
Alors Louis-André Richard, ben, merci beaucoup d'accepter l'invitation à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Louis-André Richard, je rappelle qu'il est professeur de philosophie au cégep de Sainte-Foy, il est philosophe, il est auteur prolifique, entre autres sur les questions de fin de vie, et également son tout dernier livre de l'éducation libérale, Essai sur la transmission de la culture générale, c'est aux presses universitaires de l'Université Laval.
Oui, tout à fait.
Et c'est un petit livre, alors je vais prendre le temps de vraiment le lire, ça se lit bien j'imagine, parce qu'il n'y a pas plus que 100 pages.
Voilà, donc c'est du point de vue marketing une bonne façon
parfait.
De promouvoir la littérature à notre époque.
Tout d'abord, j'aimerais ça qu'on entre dans l'histoire de ce colloque de philosophie, Une cité pour l'homme. C'est quelque chose qui a commencé, si je ne m'abuse, en 2003.
Oui, exactement. Le titre, d'ailleurs, Une cité pour l'homme, est un clin d'œil à un ouvrage qu'à l'époque, j'avais découvert. L'ouvrage d'un des participants, Pierre Manant, qui s'appelle La cité de l'homme. Et Pierre Manant sera des nôtres cette semaine pour l'édition qui se déroulera tout bientôt. Cet auteur, un des grands penseurs de la politique dans la cité, a donné l'élan du colloque. Alors, il y a une première édition où nous avons voulu réunir des spécialistes d'un peu de la philosophie particulièrement, mais aussi des gens de d'autres domaines. Je me rappelle qu'on a eu une des premières éditions, c'était Guerre et paix, et puis il y avait à ce moment-là un général de l'armée canadienne, il y avait des sociologues, des philosophes, et puis le but c'était de réunir des intellectuels, mais qui ont tous en commun un bon talent de vulgarisateur.
Ah oui.
Et parce qu'on voulait s'adresser à nos jeunes du collégial pour leur faire goûter à quoi ressemble une réunion d'intellectuels des cycles supérieurs, surtout universitaires, pour qu'ils découvrent que dans le fond, il y a quelque chose d'exaltant à la chose. Et c'est la 8e édition. Évidemment, ce sont des colloques qui réunissent entre 60 et 125 personnes, mais je ne connais personne qui, ayant participé à nos rencontres, en est sorti déçu. C'est très intéressant.
Alors, est-ce que c'est ouvert à tout le monde?
C'est ouvert à tout le monde. Et c'est pas cher. Et c'est formidable.
C'est moins cher que le cinéma, ou en tout cas,
c'est pas beaucoup plus cher. En fait, pour les étudiants, c'est 25 $ pour les trois jours.
Ah oui, mon Dieu, non,
c'est pas cher. Et puis, pour quelqu'un de l'extérieur, c'est 125.
Ah oui, ça vaut la peine.
Ça vaut la peine.
Et cette année, ce que vous avez fait, en fait, pour cette 8e édition, c'est de vous aventurer sur la piste de Romorantin. Ça m'a vraiment marqué. Romorantin, une ville de Sologne qui existe toujours.
Toujours, bien sûr.
Mais qui a failli devenir la capitale du royaume de France et donc qui aurait délogé Paris, sous un certain sens.
Oui, tout à fait. C'était la volonté du roi François Ier à l'époque. Alors, il faut savoir que le colloque est un peu sous l'égide de Léonard de Vinci, puisque nous célébrons les 500 ans de sa disparition. Et Léonard de Vinci, tout le monde ne le sait pas, mais a fini sa carrière en France, invité par François Ier, parce que le pauvre monsieur de Vinci, en Italie, est un peu délogé par un certain Michel-Ange.
Alors, d'accord.
D'une certaine façon, à la fin de sa vie, il était moins la saveur du mois, comme on dit. Mais bon, son talent n'était pas altéré pour autant. Alors, François Ier l'a invité en France et le projet de Romorantin, c'était de créer une nouvelle capitale de la France, une cité nouvelle.
Une cité pour l'homme.
Une cité pour l'homme. Alors, il faut savoir que notre colloque cette année s'inscrit à la fin d'une semaine qui est la semaine de la formation générale au Cégep de Sainte-Foy, qui est un événement formidable, autour de Léonard de Vinci. Fait que nous, on a voulu prolonger la réflexion de cette semaine-là avec notre colloque de philosophie politique. Et quoi de mieux que de ramener à l'avant-scène Romorantin. Alors, Romorantin, faut savoir que Léonard de Vinci avait déjà esquissé des plans, mais c'est pas allé beaucoup plus loin. Alors, nous, ça nous sert de prétexte pour demander à nos jeunes, par exemple, dans un concours qui est afférent au colloque, quelle est leur vision de la cité idéale, quels en sont les ingrédients pour l'homme d'aujourd'hui. Alors, les gens qui sont invités au colloque, d'une manière ou d'une autre, commentent un ou plusieurs aspects des conditions rêvées d'une cité, de la cité pour demain, pas seulement dans des perspectives idéales, mais aussi en tenant compte des réalités qui sont celles de notre société actuelle.
Oui, en fait, le thème rêver la cité pour l'homme, métamorphose et prospective, donc la vie, en fait, la ville se métamorphose, métamorphose et la société se métamorphose beaucoup aujourd'hui.
Tout à fait.
Et on doit réfléchir aux prospectives.
Oui. Par exemple, le professeur Manin, que nous accueillons par vidéoconférence, il ne sera pas physiquement avec nous, mais je lui ai demandé de nous parler du thème de la tolérance. Un thème qu'il avait déjà abordé en France l'année dernière puis qui avait connu un beau succès. Mais je disais, dans le fond, les métamorphoses et les prospectives de la société dans laquelle on se trouve placent cette idée de la tolérance au centre de nos relations entre citoyens. Il a posé la superbe question à laquelle il va tenter de répondre. La tolérance est-elle une vertu? Alors, c'est certainement une valeur, hein, puisque tout le monde s'en réclame.
Oui.
Mais quelle est cette distinction entre la valeur et la vertu? Et puis surtout, bien, au nom de la tolérance, on entend une chose et son contraire. Alors, je compte sur Pierre Manin pour nous éclairer un peu sur le sujet. Mais vous voyez un petit peu l'idée de la métamorphose et puis des pistes de réflexion, peut-être voire même de solutions à notre, une expression que j'aime pas beaucoup, mais qui est très à la mode, là, c'est à notre vivre ensemble.
Oui, et c'est beaucoup au niveau politique, là. Vous m'avez mentionné politique, c'est-à-dire politique dans son sens le plus profond,
qui
est celui du service public.
Plus que le service public, c'est d'établir des politiques. Oui, c'est même politique au sens de philosophie politique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire un second regard sur la chose publique.
Oui.
Alors, c'est pas de la réelle politique. C'est-à-dire, il s'agit pas de donner des pistes concrètes
pour voter pour qui.
Oui,
ou
voilà,
encore,
ou faire des lois X ou Y.
Voilà, exactement.
Mais il s'agit de voir les grandes orientations qui touchent la vie politique. Par exemple, je serai participant d'une table ronde, justement le samedi, tout de suite après Pierre Manin, avec deux amis, dont l'une est biologiste à l'Université d'Ottawa, mais qui est très active dans le monde de la protection des animaux pour la recherche, et l'autre, Jim Gourdon, qui est responsable de l'éthique animale à l'Université McGill. Moi, parce que je suis philosophe, prof de philo, mais que ça fait une quinzaine d'années que je fais des missions pour le Conseil canadien de protection des animaux. Alors, quel est le rapport avec la politique? Bien, c'est clair que la relation du citoyen et des animaux non humains, pour prendre l'expression consacrée, est au cœur de la réalité de la vie citoyenne.
Aujourd'hui, plus que jamais.
Il y a toutes sortes de théories comme le véganisme et tout, qui nous oblige à penser notre rapport citoyen en vertu, en fonction du rapport aux animaux domestiques ou aussi animal, dans le cas qui nous occupe, là, nous, ceux qui seront à la table ronde, animaux qui servent pour la recherche. Alors, il y a certainement une légitimité à le faire. C'est un petit peu gênant de penser qu'on va offrir nos propres enfants à l'expérimentation. Et puis, tout ça, c'est un clin d'œil à Léonard de Vinci, qui a écrit à l'époque « Un jour viendra où on s'occupera davantage du meurtre des animaux que du meurtre des êtres humains. »
Pensez-vous qu'on est rendu là?
Mais écoutez, moi, ce que j'entends présenter dans ma portion, c'est de dire, écoutez, pour être meurtrier, il faut être apte à être assassin. Qui sont les assassins? Est-ce qu'on va dire du lion qu'il est un meurtrier alors qu'il mange...
Alors qu'il cherche à manger, ben voilà. Simplement.
Alors, ouais. Évidemment, ici, il faut faire attention au sens qu'on donne aux mots, mais la question est très intéressante. Oui. On est à une époque, par exemple, où on considère que le droit des animaux est plus important que jamais, et j'en suis, mais il faut savoir que de définir l'animal comme un être doué de sensations dans le code civil, c'est amusant, mais ce n'est que cela. Pourquoi? Parce que il n'a pas été, il ne sera jamais un sujet juridique, puisqu'il est, il est apte au droit que nous avons de nous occuper d'eux, mais ils ne sont pas sujets de devoir. Alors, aucun animal domestique n'a de compte à rendre à ses maîtres.
Non, ça c'est
alors,
vrai.
Alors, aucun animal domestique non plus ne peut intenter un procès.
Et j'allais dire n'importe qui a un chat va vous dire exactement la même chose.
Voilà.
Les chats sont certainement les animaux.
Alors moi, ce qui me préoccupe dans cette réflexion politique, c'est de voir qu'il y a ici une drôle de situation où, avec raison, on est invité plus que jamais à être attentif au bien-être animal, mais en même temps, on a l'impression qu'on crée une espèce de décalage avec le bien-être humain, si je puis dire, et puis on est dans un monde où on tend plus à confondre qu'à bien distinguer la part de chacun.
On aurait tendance à oublier, et le pape François revient régulièrement sur le terme en fait, d'écologie intégrale
qui
inclut l'être humain.
Tout à fait. Hein,
il n'est pas
fait.
Du tout dans une autre pensée qui voudrait que l'être humain soit la source du problème et donc il doit disparaître, parce que ça existe aussi. Ça.
À certains égards, nous vivons dans une drôle d'époque très panthéiste. C'est-à-dire qu'on va diviniser la Terre, par exemple. J'ai même lu l'année dernière une proposition qui voulait offrir le prix Nobel de la paix ou un prix de ce genre à la Terre elle-même. Alors, c'est un peu farfelu quand même. C'est notre maison. Nous devons en prendre un soin excellent. C'est notre devoir. Mais c'est une chose.
Ce qui ne veut pas dire que chaque forme de vie n'a pas une intelligence.
Non. Mais il faut se porter sur la qualité distinctive de ces formes d'intelligence. Et c'est là, je pense, que le bât blesse. En tout cas, du moins, c'est là où il y a un espace de réflexion qui est absolument impérieux de retrouver.
Oui, essentiel à faire.
Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on me dise qu'un dauphin est hyper intelligent. J'ai pas de problème. Mais l'intelligence de l'homme, de l'être humain, est liée à sa raison. Alors, la raison humaine produit des choses, ne serait-ce que le studio ici, un artefact de deux ou troisième ou de quatrième génération. Jamais, à l'état naturel, on voit ce type d'arrangement et d'ordre surgir comme ça, sinon que par l'action de l'être humain.
Louis-André Richard, j'ai eu une idée, je vous l'ai confiée, vous avez accepté. On va écouter Jacques Brel, L'homme dans la cité. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint, en tout cas, il y a plusieurs mots
dans
le texte qui rejoignent exactement un peu le but de ce colloque, en tout cas.
Absolument.
Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que l'amour soit son royaume et l'espoir son invité, et qu'il soit pareil aux arbres que mon père avait plantés, fiers et nobles comme soir d'été, et que les rires d'enfants qui lui teintent dans la tête l'éclaboussent de reflets de fête. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, que son regard soit un psaume fait de soleils éclatés, qu'il ne s'agenouille pas devant tout l'or d'un seigneur, mais parfois pour cueillir une fleur, et qu'il chasse de la main à jamais et pour toujours les solutions qui seraient sans amour. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, et qu'il ne soit pas un baume, mais une force, une clarté, et que sa colère soit juste, jeune et belle comme l'orage, qu'il ne soit jamais ni vieux ni sage, et qu'il rechasse du temple l'écrivain sans opinion, marchand de rien, marchand d'émotion. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, avant que les autres hommes qui vivent dans la cité, humiliés d'espoir meurtris et lourds de leur colère froide, me dressent au creux des nuits de nouvelles.
C'était Jacques Brel, L'homme dans la cité. Et pourquoi cette chanson? Pourquoi a-t-on choisi cette chanson aujourd'hui? Simplement parce qu'on reçoit Louis-André Richard, qui est l'un des organisateurs du 8e colloque Une cité pour l'homme, donc qui est organisé depuis 2003 par différents cégeps, différents collèges. Et donc, chaque thème est différent. Cette année, quel est le thème déjà, Louis-André Richard?
C'est les métamorphoses et les prospectives de la cité. C'est rêver la cité idéale autour du projet de Léonard de Vinci de faire de Romorantin la nouvelle capitale de la France. Projet instauré par François Ier.
Voilà. Jacques Brel, donc, a écrit cette chanson, je crois, en tout cas, au début de sa carrière. Ça, c'est clair, parce qu'il aurait même dit lui-même, je pense qu'il y avait un peu de naïveté dans son regard, quoiqu'à la fin, on arrive avec quelqu'un qui dresse un mur, en tout cas qui semble dresser un mur. Bon, je vais recueillir vos commentaires.
Ouais, je voulais vous remercier de ce choix qui est vraiment, on ne peut plus en phase avec le colloque lui-même. Une chanson que je ne connaissais pas. Et ce qui me frappe, c'est ce refrain qui revient constamment. Pourvu que nous vienne un homme aux portes de la cité, je trouve que c'est une posture qui qualifie bien l'entreprise du colloque Une cité pour l'homme. Être aux portes de la cité, c'est être un peu en retrait pour prendre du recul, pour penser quelles sont les réflexions qui nous mènent à des actions pour le bien commun. Alors, je trouve que cette manière de dire est tout à fait éloquente. Et l'autre chose que je voyais, c'est que dans la chanson de Brel, il y a l'idée que l'amour est au cœur et au centre de la démarche. Et vous connaissez mon intérêt, ma compétence, enfin du moins mes recherches autour d'Augustin d'Hippone. Et Saint-Augustin, dans la Cité de Dieu, avait ce mot formidable. Il disait « toute cité, toute société est le produit d'un amour en commun ». Et il donnait comme exemple, quand vous allez au théâtre, vous avez une communauté d'admirateurs, mais c'est une communauté qui a des liens réels que vous partagez souvent avec des inconnus, mais qui deviennent connus parce que vous avez une connaissance commune de la vedette que vous applaudissez. Alors, dans le fond, il suggère qu'un projet de société, ce soit un projet dans lequel on ait des raisons d'aimer ce projet. Et réfléchir aux métamorphoses et aux prospectives de la cité de demain, c'est trouver ces points d'ancrage pour avoir cet amour en commun. Alors, la chanson de Brel est tout à fait intéressante. J'aime aussi, dans ce que j'ai entendu, l'aspect critique, c'est-à-dire son petit clin d'œil à l'Évangile, où on chasse du temple, non pas les marchands, oui. mais les écrivains sans opinion. Mais
C'est très actuel.
Ouais, on vit dans un monde intellectuel, moi, qui m'effraie, parce que, par exemple, l'université qui doit être le lieu de tous les débats devient une espèce d'espace contrôlé où il y a des choses qu'on ne veut plus entendre, qu'on ne peut plus dire. Et c'est le dernier bastion, l'université, où tout peut être dit et entendu et débattu. Il faut le faire. Évidemment, de manière intelligente et selon les règles de l'art.
Oui.
Mais on sent de plus en plus que si telle ou telle opinion n'est pas au goût du jour, on va tout simplement l'effacer de l'espace universitaire. Alors, nous, en tout cas, dans nos colloques, on ne souhaite pas ça. On souhaite qu'on puisse avoir les opinions contrastées, mais évidemment, intelligemment traitées.
Voilà, exactement, avec des arguments, voilà, avec des contre-arguments.
Tout à fait.
Et ça, on a peut-être oublié l'art du débat, finalement, aujourd'hui.
On a oublié l'art du débat, bien sûr.
Hein? Parce que l'université, comme vous le dites, est le lieu. Et le colloque sera le lieu aussi de l'art du débat.
Oui, exactement, tout à fait.
Ouais.
Et c'est la 8e édition, puis c'est une des belles choses de nos colloques, c'est que dans le plus grand respect des intervenants, on peut entendre une chose et son contraire et essayer de comprendre. Et ça, c'est, je dois dire que comme je vieillis tranquillement, les plus belles expériences intellectuelles que j'ai eues dans ma vie, je les ai eues, il faut dire, surtout en France, parce que le climat là-bas se prête plus à ça, mais c'est d'être dans des situations où vous êtes à la même table de gens qui ont des conceptions complètement opposées aux vôtres. Et quand on a affaire à de vrais chercheurs, de vraies personnes qui réfléchissent, bien, l'effort de comprendre nous ouvre des horizons qui manifestent la complexité des choses. Mm-hmm. Et devant cette complexité, même si nous savons qu'il y a des points sur lesquels ce sera irréconciliable, il y a tout de même une amitié qui sous-tend tout cela, puis après, on va prendre un verre.
Et j'allais dire, il y a toujours des petites parcelles de choses qu'on dit « Ah, attention, j'avais pas vu ça. » Ben oui,
voilà,
c'est vrai.
Voilà,
et ça,
voilà.
Et ça, c'est important.
Et moi, comme professeur, c'est une des choses que je souhaite transmettre le plus à mes étudiants, cette espèce d'ouverture au sens noble du terme, c'est-à-dire cette capacité à bien voir les problèmes, à en comprendre la complexité, puis d'être capable de discerner les chemins par lesquels on peut trouver des solutions.
Oui, André Richard, il nous reste environ 6 minutes. J'ai le goût de vous poser une question très large. Alors, vous prenez, quelle est la cité idéale pour Louis-André Richard? Excusez-moi de vous poser la question à la fin de l'émission.
Oui. Mais c'est une excellente question. Oui. Il faut se la poser toujours. Mais écoutez, je vais vous répondre par des trucs très pragmatiques qui sont des principes que je porte depuis toujours. En tout cas, dans ma cité idéale, l'éducation est au premier plan.
Au cœur, hein?
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
Parce que l'éducation... Platon disait l'homme, l'être humain, n'est rien sans éducation. Parce que dans le fond, on ne peut même pas survivre si on n'est pas en contact avec notre semblable. Mm-hmm. Donc, on reçoit le lait maternel dès la naissance, mais avec le lait, on reçoit aussi toute une série d'idées et d'opinions sur le monde dans lequel on est inscrit. Et il faudra un jour... remettre cela en question ou trouver les raisons pour lesquelles ce qu'on a appris à la maison et dans la cour de l'école et dans la société en général a une valeur objective. Alors ça, c'est la démarche de la philosophie, puis c'est la démarche de l'éducation libérale, pour faire un petit clin d'œil au livre que je viens de publier.
Ben oui.
souvent, mes étudiants, ils m'ont demandé souvent dans ma carrière, « Monsieur, si vous étiez premier ministre... » Alors moi, je répondais toujours la chose suivante, ça va répondre à votre question de manière très pragmatique. Je me disais, si j'étais premier ministre ou ministre de l'Éducation, je modifierais la loi des loteries et des courses. Et plutôt que de gratter les gratteux qui nous permettent d'avoir des gros lots, je ferais des concours de lecture dans lesquels j'obligerais nos concitoyens à lire... je sais pas moi, Aristote, à lire « La démocratie en Amérique » de Tocqueville. Il faudrait que tout le monde lise ça quand on est dans une démocratie. Puis là, je dirais, à la fin, vous avez tant de temps pour lire le texte, il y a un petit test de lecture nationale, et ça vous donne droit à un billet, puis il y aura un tirage après.
Un billet de tri, donc.
Voilà. Plutôt que de faire de la loterie l'art du grattage, je ferais de la loterie l'art de la lecture. Bon, alors, c'est une anecdote, mais c'est pour... Je pense, moi, que l'éducation et l'éducation qui, libérale qui nous libère l'esprit
qui est une éducation, j'allais dire, générale.
Générale, oui, tout à fait.
On voit tous les aspects de la vie, on voit les aspects de la science, de l'histoire, des mathématiques, du français, de l'anglais.
On est en contact avec ces œuvres qui ont traversé les siècles. Et il faut toujours se laisser impressionner. Des fois, j'ai mes étudiants, quand on lit Platon, la première rencontre avec Platon, c'est pas fantastique, là. Parce qu'on a affaire à une littérature qui est d'un autre temps, avec un niveau de complexité certain, et le premier contact, c'est aride. Mais je dis, il faut jamais oublier, au moment où on en arrache à essayer de comprendre, que ce qu'on tient dans les mains a passé à travers les âges. Donc, il y a quelque chose là-dedans, par-delà la difficulté qui vaut la peine d'être assimilée et compris. Et cette chose, entre autres, ben, c'est justement la capacité de recul qu'on a d'être aux portes de la cité puis de se dire, bien là, c'est quoi les conditions qui nous permettent de vivre une vie heureuse, d'avoir une bonne vie? Par-delà le travail, par-delà la famille, il y a des ingrédients fondamentaux, il faut les trouver, il faut s'en imprégner puis peut-être faire des choix conséquents à cela.
En ce sens-là, est-ce que notre société, puis on va parler du Québec parce qu'on la connaît bien, est-ce qu'on n'aurait pas avantage à faire plus attention aux conditions socio-économiques dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui, dans la mesure où il y a un appauvrissement de plus en plus grand de la classe moyenne, et il y a une classe très riche qui devient de plus en plus riche? Ça, les analyses depuis 15 ans, depuis 20 ans le disent.
Ouais. Et quand on regarde dans le rétroviseur, faut savoir que il y a des cycles dans la vie des cités. Et malheureusement, de la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, puis même un peu avant, vous avez toujours la guerre qui était l'élément par lequel, quand on allait flirter avec les extrêmes, on revenait un peu dans le bon sens. Alors.
Et là, de ce temps-là, l'actualité vous donne un peu pas mal
ouais,
raison.
Ouais, c'est
là.
Ça. Alors, je ne souhaite pas la guerre, pas du tout. Mais il faut trouver des solutions nouvelles qui vont réguler ces extrêmes. C'est une injustice. Absolu, de voir tant d'argent capté par une si petite partie de la population. Puis en même temps, vous savez, moi, comme prof de philo, ce qui me concerne, je ne suis pas économiste, mais ce qui me concerne, c'est de voir que, dans le fond, l'injustice de l'âpreté du gain de ceux qui gardent tout est à la mesure de la jalousie des pauvres à vouloir être comme eux. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui.
Il y a un problème ici qui est un problème anthropologique.
On rêve d'être comme eux, donc on attend que ça arrive.
Voilà. Alors évidemment, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans l'homme, dans l'être humain, une cassure ou un problème, appelons ça comme vous voulez. Les chrétiens parlent du péché, mais les philosophes laïcs parlent d'égocentrisme ou de formulation de ce genre qui mettent la problématique au cœur de la nature humaine, de la condition humaine. Et là, ça me semble être, encore une fois, le lieu privilégié de la réflexion. On ne peut pas changer le monde si on ne se change pas déjà un peu soi-même. L'éducation libérale, ben, c'est ça que ça donne.
Voilà.
C'est ça que ça donne. Alors, dans ma cité idéale, l'éducation est au premier plan. Et je veux me permettre d'ajouter un événement particulier, singulier que j'ai vécu. J'ai perdu ma belle-sœur dans un attentat terroriste au Burkina Faso. Puis je rappelle ça parce que depuis ce jour, je suis hanté par le fait que ces assassins étaient des jeunes avec le cerveau lavé par une éducation qui n'était pas bonne et qu'alors qu'elle, avec son père, elle allait travailler à faire la réflexion des écoles.
Voilà.
Alors, c'est ça. Il y a une bonne, moins bonne éducation, puis il faut travailler à ce que tout le monde soit bien éduqué.
Écoutez, Louis-André Richard, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. On pourrait passer
merci.
Des heures à jaser, comme on dit. Mais voilà, merci infiniment.
Merci à vous, merci de l'invitation. Et venez tous au colloque.
Oui, le colloque donc, dont il est question, c'est l'homme, la cité pour l'homme. Voilà,
l'homme.
Métamorphose et...
Prospective pour la cité, 8,
beaucoup.
9, 10 novembre prochain.
Voilà, au Cégep Sainte-Foy. Simplement vous rappeler que Louis-André Richard vient de signer aux presses de l'Université Laval de l'éducation libérale Essai sur la transmission de la culture générale. Et il est professeur au Cégep Sainte-Foy en philosophie. Il est philosophe également, bien sûr. Merci beaucoup à Berthold Bernier, qui était aujourd'hui à la régie. Merci beaucoup à Daniel Fortin à Radio-VM. Je vous rappelle que l'Office de catéchèse du Québec reçoit le gracieux soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse pour la réalisation de questions d'aujourd'hui. Ici Mario Barre, je vous dis à bientôt.